Il est 8h. Vers un vaccin made in France, il y a ce matin des raisons d'y croire. Sanofi vient tout juste de présenter une formule efficace contre le Covid, entre 95 et 100%, facile à stocker. Détails dès le début de ce journal et explications à 8h15 avec votre invitée Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Effectivement, c'est en exclusivité sur Europe 1. Le patron de Sanofi France, Olivier Boggio, les tout derniers résultats des essais de leur candidat vaccin. Et enfin, l'espoir d'un vaccin français. Rendez-vous à 8h15.
Dans ce journal aussi, postes de travail non sécurisés, antivirus inexistants, les PME françaises pas suffisamment armées en matière de cybersécurité. Résultat d'un sondage qu'Europe 1 vous révèle ce matin. Et puis, obligés d'embaucher pour gérer la demande, les restaurants étoilés pris d'assaut à l'approche de la réouverture en mercredi. Très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Dans la course au vaccin anti-Covid, c'est l'histoire d'un départ raté, suivi d'une chute au premier obstacle et d'un sprint engagé pour revenir sur les premiers. Après des résultats décevants en décembre dernier, Sanofi est cette fois en passe de pouvoir proposer un vaccin.
Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour.
Vous venez de suivre la présentation des derniers résultats du laboratoire français et ils sont très encourageants.
Oui, ce matin, le laboratoire a annoncé une réponse immunitaire de 95 à 100% de son candidat vaccin après deux doses. Une efficacité mesurée dans toutes les tranches d'âge, de 18 à 95 ans. Ce sont donc des résultats très proches de ceux obtenus avec les vaccins à ARN messager, les plus performants jusqu'ici. Mais ce vaccin qui utilise la technique de la protéine recombinante a l'avantage de se conserver dans un simple frigo entre 2 et 8 degrés. Cette technologie a déjà fait ses preuves dans la vaccination contre la grippe ou la coqueluche.
Alors maintenant, le calendrier, Anne, c'est quoi pour Sanofi ?
Alors, ces résultats très encourageants contre le Covid vont permettre de déclencher les essais de phase 3, qui sont donc les essais à grande échelle sur l'homme. Ils seront menés sur 35 000 personnes dans plusieurs pays. Deux formulations vont être testées et l'une d'elles visera plus particulièrement le variant sud-africain. Le laboratoire prévoit aussi de lancer en parallèle la production industrielle de son vaccin. Et si les résultats se confirment, les premières doses pourraient arriver au plus tôt en octobre. Malgré l'arrivée tardive de ce vaccin sur le marché, Sanofi estime que son sérum trouvera toute sa place dans l'arsenal existant, notamment pour les rappels qui pourraient devenir saisonniers.
Les explications d'Anne Le Gall pour Europe 1.
Et on l'a dit, je vous le redis, en exclusivité juste après ce journal sur Europe 1, le président de Sanofi France, Olivier Boggio, invité de Sonia Mabrouk à 8h15.
Et vous, vous faites quoi mercredi ? Un musée ? Un ciné ? Du shopping ? Un dîner ? Il est temps d'y penser car le déconfinement se prépare avec en plus une extension du couvre-feu à 21h. Et dans les restaurants, les réservations affluent, même dans les établissements les plus huppés, comme l'a constaté Maud Descamps auprès de plusieurs chefs étoilés.
Pour obtenir une table chez Alexandre Mazia à Marseille, il faudra attendre le mois de décembre avec une troisième étoile tout juste décrochée. Les clients se bousculent.
On a plus de 3900 réservations qui attendent. Nous, on n'a que 24 couverts et on est ouvert à 8 services. Donc, il va falloir être patient.
Même chose pour le chef triplement étoilé Christophe Bacquier au Castellet qui a dû embaucher du personnel.
Comparé à l'an passé où il y avait juste une personne aux réservations, ben là on s'est armé. Elles sont deux filles aux réservations, plus notre chef de réception et une quatrième personne qui vient en renfort à partir d'aujourd'hui. C'est environ une centaine de mails par jour à traiter en ce moment.
Un grand nombre de demandes, mais aussi des contraintes sanitaires à respecter. Alors les chefs s'adaptent, explique David Bizet du Peninsula à Paris.
Une possibilité de all-day dining, c'est-à-dire à partir de midi, de pouvoir déjeuner à n'importe quelle heure jusqu'au soir. Une carte aussi plutôt orientée tapas fin de soirée. On a essayé d'être au plus proche de la demande de nos clients.
Des clients essentiellement français pour le moment, beaucoup d'habitués, mais aussi quelques novices qui, après une année de privation, fêtent la réouverture des restaurants en s'offrant le meilleur de la gastronomie française.
Et pour les Britanniques, à partir d'aujourd'hui, ce pourra être fish and chips et bière en intérieur. Réouverture aussi des hôtels, lieux culturels et stades, jusqu'à 10 000 spectateurs.
C'est un autre genre de virus, mais ses conséquences peuvent être dévastatrices. 6 mois après avoir été touché, 60% des entreprises ne s'en remettent pas. Mais malgré les risques de cyberattaque, les PME françaises tardent à investir.
C'est ce que révèle un sondage IFOP pour la société de conseil F-Secure qu'Europe 1 vous dévoile ce matin. Et ce qui est marquant, Clément Lessard, c'est que même quand les entreprises ont conscience des risques, elles n'y mettent pas les moyens.
Oui, selon cette étude, pour 60% des PME, le budget pour la protection de leur système informatique ne doit pas dépasser 1 000 euros par an, une somme qui suffit tout juste pour une TPE de moins de 10 salariés et qui est donc très insuffisante pour une entreprise de 20 ou 50 salariés. Mais au-delà des considérations financières, pour Guillaume Gamelin, vice-président de F-Secure France, il faut surtout mieux former les salariés à la sécurité informatique.
Ça va être d'avoir une bonne sauvegarde de ces données pour être capable, au pire, de repartir le plus vite possible, éduquer les utilisateurs pour changer de mot de passe régulièrement, utiliser des mots de passe forts. Ça va être éduquer les utilisateurs, par exemple, sur le fait qu'il faut patcher régulièrement les machines. Aujourd'hui, on ne se doute pas, mais 8 cyberattaques sur 10 utilisent une faille de vulnérabilité, qui est connu.
Et ce manque de connaissances crée un décalage problématique dans la perception des risques liés aux cyberattaques. 2/3 des dirigeants interrogés estiment que leurs salariés sont suffisamment protégés, et ce, alors même que les mesures de base ne sont pas toujours prises. Une entreprise sur 2 ne sécurise pas ses postes de travail et 1 sur 3 n'utilise même pas d'antivirus.
Précision signée Clément Le Saffre. Il avait prémédité son acte après avoir reconnu avoir tué son patron et un collègue. Mardi dernier, Valentin Marcon a été mis en examen hier pour assassinat et placé en détention.
Après un 3e échec à l'ONU, pas de répit au Proche-Orient avec encore ces dernières heures d'intenses raids aériens menés par Israël sur la bande de Gaza.
Gwendoline de Bono, vous êtes à Jérusalem. Pour Europe 1, ce sont des dizaines de cibles qui ont été pilotées par l'aviation israélienne.
Et hier, le chef d'état-major israélien a déclaré que jamais le Hamas n'avait rencontré une telle force. Les Gazaouis affirment eux aussi que l'intensité des frappes est plus forte que lors des offensives de 2012 et 2014. Hier, c'est toute une portion de rue qui a été détruite après la destruction de l'immeuble depuis lequel travaillaient les journalistes de la presse internationale. Le premier ministre Benjamin Netanyahou assume.
Un bureau de renseignement pour l'organisation terroriste palestinienne se trouvait dans cet immeuble, qui prépare et organise des attaques terroristes contre des civils israéliens. Donc c'est une cible parfaitement légitime. Nous avons pris toutes les précautions pour s'assurer qu'il n'y ait pas de victimes civiles. En fait, pas de morts, pas de blessés, d'aucune sorte.
Les résidents ont bien tous été évacués 1 heure avant, mais c'est loin d'être toujours le cas. Avant-hier, une famille entière dont 8 enfants est morte dans la frappe qui a ciblé son immeuble. Personne n'avait été prévenu. Le Hamas a riposté avec un barrage de roquettes sur Tel Aviv.
Gwendoline de Bono à Jérusalem pour Europe 1 et ses affrontements au Proche-Orient. En une semaine, on fait environ 200 morts.
Votre journal se poursuit dans un instant. Oui, oui, le Titanic dans l'actualité. Entre mystère et promesse de gros sous. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h09 sur Europe 1, la suite du journal Marion Calais.
Et d'ici une dizaine d'années, il aura peut-être totalement disparu, rongé par le sel et les bactéries. Le Titanic ne pourra plus compter que sur sa seule légende pour survivre. Une légende toujours vivace, on atteste ce parc d'attractions en Chine où l'on vous emmène dans un instant. On atteste aussi ses recherches au Canada sur un message retrouvé sur une plage avec ces mots « Je jette cette bouteille à la mer au milieu de l'Atlantique, nous devons arriver à New York dans quelques jours ».
Alors s'agit-il du message d'un passager qui aurait dérivé 100 d'années en mer? Les premiers résultats laissent planer le doute, Jean-Jacques Herry.
Oui, et ce que l'on sait, c'est que la signataire de la lettre, Mathilde Lefebvre, figurait bien sur la liste des passagers du Titanic. C'était une petite fille de 12 ans, originaire de Liévin, qui voyageait en 3e classe avec sa mère et ses frères et sœurs pour rejoindre son père expatrié au Nouveau Monde. Un père qui ne reverra malheureusement jamais sa famille après le naufrage. Les constatations matérielles laissent aussi penser que la bouteille pourrait bien dater du début du XXe siècle au vu de sa composition chimique et de la qualité du verre. Même chose pour le papier et l'encre utilisées. Pour autant, difficile de comprendre comment la bouteille a pu être découverte en 2017, 105 ans plus tard, sur les côtes canadiennes. La probabilité que les courants marins de l'époque la portent vers l'Europe était en effet beaucoup plus forte. Autre élément qui pose question, l'écriture manuscrite, elle semble un peu trop personnelle pour une petite fille, éloignée en tout cas de la norme cursive enseignée dans les écoles de la Troisième République. Conclusion donc, pour le moment, les scientifiques ne peuvent toujours pas se prononcer et écarter définitivement la possibilité d'un canular. Un canular qui serait à la fois cruel et rudement bien fait.
Et soyons honnêtes, oui, on a surtout très envie d'y croire, Mathieu, à ce message revenu de l'Atlantique. Et à l'image de la démesure du navire, ce projet pharaonique en Chine, une réplique en cours de construction au milieu des champs dans le sud-ouest du pays, un futur parc d'attractions où nous emmène le correspondant d'Europe, Sébastien Le Belzic.
Elle ne ressemble pour l'instant qu'à un vaste amas de tôles entouré d'échafaudages. Mais cette reproduction grandeur nature du Titanic est une copie comme seuls les Chinois savent en fabriquer. de la salle à manger aux poignées de porte, tout est conforme à l'original qui gît toujours par 4000 mètres de fond. L'idée a germé dans l'esprit d'un millionnaire, Su Xiaojun, passionné par l'histoire du paquebot géant, mais surtout homme d'affaires avisé.
Nous allons attirer des touristes du monde entier. On estime le nombre de visiteurs entre 2 et 5 millions chaque année. Avec une telle fréquentation, le retour sur investissement est assuré.
Les visites se feront au rythme de la bande originale du film. Clin d'œil encore au cinéma, c'est Bernard Hill, l'acteur britannique qui jouait le rôle du capitaine dans le Titanic de James Cameron, qui prendra la barre lors de la cérémonie d'ouverture.
Tout cela a été fait de manière très délicate et respectueuse.
Après 6 ans de travaux et 150 millions d'euros investis, ce Titanic Land devrait accueillir ses premiers passagers à la fin de l'année pour de vraies fausses croisières sur la terre ferme, facturées quand même 250 euros la nuit. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Eh oui, le Titanic, ça se mérite. Enfin en Ligue 1, le titre se jouera le week-end prochain. Après le match nul contre Saint-Etienne, 0 partout, Lille n'a plus qu'un point d'avance sur le PSG vainqueur face à Reims, 4-0.
Quel suspense pour cette fin de championnat de Ligue 1. Merci beaucoup Marion Calais. C'était le journal de 8h sur Europe 1. Dans un tout petit instant, on retrouve Sonia Mabrouk et son invité en exclusivité sur Europe 1 ce matin, le président de Sanofi France, Olivier Bogillo. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le président de Sanofi France, Olivier Bogillo.
Bienvenue à vous et bonjour Olivier Bogillo.
Bonjour Sonia Mabrouk.
L'annonce a donc été faite ce matin, votre candidat vaccin Sanofi GSK a passé avec succès l'essai de phase 2. On va bien sûr entrer dans les détails, mais tout d'abord, est-ce que ça veut dire clairement ce matin qu'il y aura de manière certaine un vaccin français dans la course au vaccin ?
Alors, c'est une étape très importante qu'on vient de franchir avec ces résultats. Une phase 2, ça vous permet de voir si votre vaccin fonctionne. Et il fonctionne très bien, hein. On a entre 95% et 100% de séroconversion, donc d'apparition d'anticorps quand vous êtes vacciné avec ce vaccin de Sanofi. On est très content, c'est très encourageant, on va faire maintenant des phases 3, mais on est maintenant très confiant.
Donc on peut dire ce matin qu'il y aura un vaccin français et que c'est une victoire à la Pyrrhus, c'est ainsi que vous le considérez ?
Non, ce n'est pas une victoire à la Pyrrhus, on est très satisfait d'avoir continué à travailler, d'avoir fait preuve de détermination hein, pour pouvoir arriver à ces résultats-là ce matin. Encore une fois, c'est une étape très importante qui vient d'être franchie pour Sanofi.
Alors c'est une réponse immunitaire, une efficacité forte à 95%. Est-ce qu'elle est valable surtout sur toutes les tranches d'âge ?
Alors c'est effectivement cette fois-ci valable sur toutes les tranches d'âge, hein. C'était quelque chose de très important pour nous, on voulait avoir une efficacité qui soit très élevée dans toutes les tranches d'âge. C'est le cas avec ces résultats.
Vous avez inclus, Olivier Bogillo, dans vos essais des patients déjà infectés par la Covid. Pour quels résultats ?
Alors, c'est un point important. Effectivement, on a des patients dans cette phase 2 qui ont déjà été en contact avec la Covid-19. Et lorsqu'on les vaccine avec une seule dose de notre vaccin, on a une réponse très élevée en anticorps. Donc, on pense que ça peut être un très bon signal pour que le vaccin de Sanofi soit un très bon vaccin de rappel.
Ah, de rappel. Donc d'abord, vous misez sur le fait qu'on va devoir être vacciné chaque année et que ce pourrait être une bonne logique de vaccin de rappel.
Alors, le fait est qu'on va voir au cours du temps si lorsque vous avez été vacciné ou lorsque vous avez été contaminé, votre niveau d'anticorps finit par baisser. Dans ce cas-là, il faudra effectivement vous faire vacciner à nouveau, hein, comme on le fait avec d'autres vaccins. Il faut pouvoir avoir des rappels de temps en temps. Là, les résultats qu'on a, hein, qu'il va falloir valider dans les essais à venir pour les confirmer, nous montrent qu'on pourrait être un très bon vaccin de rappel, effectivement.
Alors, on va parler dans quelques instants de la production, de la commercialisation. Mais tout d'abord, c'est un vaccin à protéines recombinantes adjuvantées. Expliquez-nous, c'est le principe d'un vaccin contre la grippe ?
Alors, c'est maintenant, je pense que tous les Français sont devenus experts en vaccins. Donc, il y a les ARN messagers hein, qui sont arrivés très rapidement. Ensuite, il y a les adénovirus comme AstraZeneca ou Johnson & Johnson. Et la protéine recombinante adjuvantée, c'est une troisième technologie qui est un peu différente, qui est effectivement utilisée depuis très longtemps dans la grippe hein, chez Sanofi. Donc c'est une plateforme qu'on maîtrise bien, dont on a un certain nombre de reculs hein, sur l'utilisation. Et donc c'est une nouvelle technologie qui va arriver avec des résultats qui, comme on l'a montré ce matin, sont très bons.
Et avec une logistique assez simple, apparemment utilisable à température ambiante, pas besoin de super congélateur, ça sera important évidemment pour la suite.
Oui, absolument. C'est un vaccin qui est qu'on dit thermostable, hein, donc qui est entre 2 et 8 degrés. Vous pouvez le mettre dans votre réfrigérateur, ce qui veut dire que c'est effectivement un peu plus facile d'utilisation. Hein. Vous avez pas forcément besoin de vaccinodrome pour ce type de vaccin. Vous pouvez vous faire vacciner chez votre pharmacien, chez votre médecin. C'est un vaccin un peu plus pratique.
Et maintenant, quand allez-vous lancer la production? Est-ce que vous avez un horizon précis?
Alors oui, on va lancer nos essais de phase 3 là, dans quelques semaines, hein, fin du mois de mai, début du mois de juin. Et simultanément, on va lancer notre production.
Simultanément. C'est donc une production à risque?
Oui, absolument. C'est une production à risque qui nous permettra d'avoir immédiatement, dès qu'on aura l'autorisation de mise sur le marché qui est attendue pour le dernier trimestre de cette année, des doses disponibles pour les Français et pour le reste du monde.
On imagine que vous avez eu des appels quand même de l'exécutif français, du gouvernement français de félicitations ce matin, Olivier Beaugilot.
J'ai eu quelques échanges avec quelques officiels français, effectivement.
Bon, et on espère aussi qu'ils pensent à la commande. Est-ce que vous avez d'ores et déjà pour ce candidat à vaccin des précommandes, peut-être de pays plus lointains et aussi de l'Europe?
Alors on a des discussions avec l'ensemble des États. On travaille évidemment avec les Américains, hein, avec qui on a beaucoup travaillé sur le développement de ce vaccin, avec le Canada, avec l'Angleterre. Évidemment avec l'Union européenne, donc la France en fait partie.
Oui, mais vous citez l'Union européenne à la fin, ça doit nous inquiéter.
Oh non, pas du tout. On travaille très bien avec l'Union européenne, on est en relation avec les autorités françaises très régulièrement.
Mais qui a commandé d'ores et déjà votre candidat vaccin? Alors, qui a fait des précommandes?
La plupart des pays attendaient les résultats de cette phase 2 pour pouvoir actionner les commandes. Donc on aura des commandes là à partir des semaines qui viennent.
Et l'Union européenne, la France ne sera pas prioritaire forcément? Si c'est un vaccin français, on peut l'espérer tout de même.
Écoutez, ce qui est important, c'est qu'on puisse fournir ce vaccin aux Français, mais aussi au monde entier. Hein. Je rappelle qu'au moment où on se parle, il n'y a que 10% de la population qui est vaccinée avec une dose dans le monde entier. Donc il va falloir vacciner un grand nombre de populations sur toute la planète. Donc notre vaccin, il sera utile pour tout le monde.
Mais justement, vous parlez d'utilité. Vous avez fait l'objet, Olivier Beaugilot, d'une pluie de critiques pour avoir lourdement déçu, il faut bien le dire, dans la course au vaccin au départ. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas, après la guerre, après la bataille?
Je pense que notre vaccin, il sera très utile.
Qu'est-ce que ça va changer dans la course au vaccin?
Encore une fois, hein, 10% de la planète est aujourd'hui vaccinée avec une seule dose. Donc il va falloir encore vacciner une grande partie de la population. Si on regarde ce que disent aussi les experts en termes d'immunité collective, hein, il faudra vacciner 80% de la population. Pour la France, c'est 54 millions à deux doses. J'écoutais ce matin les résultats, on est à 8,8 millions de patients français vaccinés à deux doses aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a encore un peu de la marge. Et puis, il y a des variants, cette course elle est assez longue, donc le fait d'avoir un vaccin disponible, éventuellement un vaccin de rappel.
Mais oui, disponibilité, mais efficacité. Vous parlez justement des variants, quelle sera l'efficacité ou la résistance par rapport aux variants? Est-ce que vous le savez d'ores et déjà, variants sud-africains et indiens?
Alors on travaille dans le cadre de notre développement clinique, là on va faire des essais de phase 3, et dans ces essais de phase 3, on va inclure le variant sud-africain, qui est quand même le variant qui est le plus difficile en ce moment. Donc on travaille pour pouvoir fournir non seulement un vaccin efficace sur la souche dite Wuhan ou anglaise, et un vaccin contre la souche sud-africaine.
Mmh. Olivier Beaugilot, il y a une sorte de classement aujourd'hui fait dans le monde entier, et par les Français également, qui ont tendance peut-être à classer certains vaccins, je pense à Pfizer avec ARN messager, en tête des vaccins les plus efficaces, et le vôtre? Est-ce que vous savez où est-ce qu'il peut être classé? Parce que pour le moment, c'est l'ARN messager qui tient la corde.
Absolument, mais c'est encore un peu tôt. Hein. On n'a pas, nous, de résultats de phase 3, contrairement à l'ARN messager. Mais les résultats de phase 2 qu'on présente aujourd'hui sont vraiment très encourageants. Donc, on espère avoir un très, très fort taux d'efficacité à l'issue de nos essais de phase 3. Mais vous savez, encore une fois, je pense qu'il faut plusieurs plateformes technologiques.
Oui, mais quelle différence? Si ce matin, on vous écoute, et puis il y a des Français qui ont d'ores et déjà leur rendez-vous bientôt, ou peut-être à terme, pour une vaccination avec Pfizer ou autre, pourquoi se ferait-il vacciner avec votre candidat vaccin, Sanofi?
Je pense que tous les vaccins sont utiles aujourd'hui. Hein. L'ARN messager, les adénovirus, y compris le vaccin
d'AstraZeneca. Donc le vôtre n'a pas de valeur ajoutée.
Et notre vaccin apportera une solution supplémentaire, efficace, on l'espère, à l'issue de ces essais de phase 3, mais les résultats présentés ce matin sont vraiment très encourageants. Vous savez, encore une fois, peut-être que l'année prochaine, vous serez amené à recevoir une dose de rappel. Peut-être que vous choisirez
une dose de rappel ou une troisième dose? Vous êtes sur quelle logique?
Une troisième dose, sera une dose de rappel. Mm-hmm.
Les profits réalisés par votre groupe, Olivier Beaugilot, les suppressions ou non-renouvellement de postes dans la recherche alors que vous avez obtenu des aides de l'État ont beaucoup et pour le moins déconcerté. Qu'est-ce que vous répondez à cela?
Vous savez, on a beaucoup travaillé pour avoir ce vaccin. Vous parliez tout à l'heure de la pluie
de
critiques qu'on a pu recevoir.
Parfois légitimes, vous le reconnaissez ?
Je pense que... Non, je le reconnais pas, ça. Je pense qu'on a des chercheurs chez Sanofi qui ont fait preuve d'une extraordinaire détermination alors qu'ils avaient une pluie de critiques dans les médias.
Mais vous savez que ce ne sont pas les chercheurs qui sont critiqués, justement. Ce sont eux, parfois, les cibles, en tous les cas, des plans de départ volontaires. C'est surtout la stratégie du groupe qui a été remise en cause.
Ça ne concernait pas du tout les chercheurs qui travaillent sur la vaccination. Hein. On est dans un secteur, le secteur de l'industrie pharmaceutique, où vous investissez dans la recherche là où vous avez vraiment des besoins. On a des chercheurs qui ont fait l'objet d'un plan de départ volontaire sur des aires thérapeutiques pour lesquelles on avait moins d'investissement pour pouvoir investir là où on apporte vraiment quelque chose.
Mis à part ce vaccin à protéines recombinantes, puisque vous parlez des chercheurs, il faut préciser que vous continuez à travailler aussi sur la technologie de l'ARN messager. Vous ne l'avez pas abandonné pour la suite, pour les années à venir.
Ah non, c'est une technologie de rupture. On a bien vu dans cette épidémie que c'était... une nouvelle technologie, ça n'existait pas il y a un an. Il y a un an, il n'y avait pas de preuve que l'ARN messager pouvait faire un vaccin.
Donc Sanofi continue de travailler sur ces technologies d'avenir.
On a un candidat vaccin ARN messager et il est très important pour Sanofi de pouvoir démontrer qu'on maîtrise cette technologie pour l'avenir. Mais c'est très important aussi pour la France. Il faut qu'un laboratoire français maîtrise cette technologie à l'avenir.
Vous parlez de la France, de l'Union européenne, avec un peu plus de recul aujourd'hui. Quelle différence vraiment fondamentale avons-nous avec les États-Unis ? Vous connaissez bien, évidemment, le pays. Où est-ce que nous avons péché ?
Alors, les Américains ont une structure, une organisation qui s'appelle le BARDA, qui est une structure qui a des compétences, scientifiques, réglementaires, qui a aussi des compétences budgétaires, qui peut investir massivement. Et cette organisation n'existe pas en Europe. Il s'avère que cette organisation américaine fait tout pour anticiper les choses.
Qu'est-ce que ça aurait changé si on l'avait eu au niveau européen ? Vous allez me dire tout ?
Je pense qu'en tout cas, c'est une vraie réflexion que doit avoir l'Europe et elle doit se doter dans les mois ou années qui viennent d'une structure équivalente au BARDA américain parce que ça permettra à l'Europe d'anticiper d'anticiper sur les capacités de production, d'anticiper sur les technologies, d'anticiper sur les commandes. Et on voit bien que dans une épidémie comme celle-ci, c'est l'anticipation qui fait tout.
Pour conclure, Olivier Bogilio, ce matin, on peut dire qu'il y a une forme de fierté parce qu'il y avait une blessure d'orgueil par rapport à la non-existence d'un vaccin français. On peut y arriver, on y arrive, semble-t-il.
Oui, je pense qu'on a peut-être condamné un peu vite Sanofi alors qu'on développe ce vaccin, nous, en interne. On en développe deux. Et si vous regardez l'engagement de Sanofi depuis le début de cette crise, non seulement on a augmenté nos capacités de production de médicaments, on produit pour nos concurrents. Je le rappelle, on va produire 400 millions de doses pour BioNTech, pour Moderna, pour Johnson & Johnson. On développe deux vaccins. Je dois dire que l'engagement de Sanofi a été total dans cette crise. Moi, j'en suis très fier.
Avec une promesse, un vaccin avant la fin de l'année, donc.
Un vaccin avant la fin de l'année, absolument.
Merci Olivier Bogilio et merci d'avoir annoncé tout cela sur Europe 1 ce matin.
Merci Sonia Mabo.
Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr.
Merci Sonia, 8h27 sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 8h30 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Émilie Dez.
On vient de l'entendre sur notre antenne. L'espoir d'un vaccin français contre le Covid est enfin permis après un départ raté en décembre dernier. Le laboratoire Sanofi présente ce matin des résultats très encourageants. Son candidat vaccin serait efficace entre 95 et 100% sur toutes les tranches d'âge. La phase 3 de test va donc pouvoir être lancée, a assuré sur Europe 1 le patron de Sanofi, Olivier Bogilio. Plus que deux jours à tenir, deux jours avant la réouverture des terrasses, des théâtres et des cinémas. Les salles de concert aussi vont pouvoir à nouveau accueillir du public avec des jauges réduites. Après une année rythmée par les reports ou les annulations, les professionnels du secteur n'ont cessé de s'adapter, comme a pu le constater Angèle Châtelier.
Tu peux pas accueillir les 1000 premiers qui arrivent et puis ceux qui ont un billet rester à la porte.
Mélanie Brolo travaille pour Citiquette, un site pour acheter des billets de spectacle. Et entre les annulations, les reports et les contraintes sanitaires, sa vie est un casse-tête.
Il faut vraiment un travail de fourmi, en fait, de contacter toutes les salles, les festivals, les managers, les artistes pour mettre à jour au fur et à mesure.
Principal problème, la jauge réduite. Là, jusqu'à fin juin, c'est 65% de spectateurs maximum dans la salle. Mais si un concert était complet avant la pandémie, ça implique de laisser des spectateurs sur le carreau. Alors Alain Souchon a trouvé la solution, jouer plus. Il a 4 dates de prévues au Palais des Sports de Paris fin juin, par exemple. Son tourneur, Pierre-Alexandre Vertadier, qui est directeur de Décibel Productions, s'occupe aussi de Louis Chédid ou de Kenji Girac, qui repartent bientôt sur les routes. Et il travaille d'arrache-pied pour s'adapter à tout.
On insiste beaucoup sur le fait que les billets qui ont été achetés seront valables. J'ose espérer que ça ne va pas durer éternellement. Donc on fait plutôt un peu au cas par cas en ce moment.
D'autres ont préféré faire table rase, rembourser tout le monde et ouvrir une nouvelle billetterie, comme le Festival des Vieilles Charrues, qui accueillera cette année 5 fois moins de festivaliers que d'habitude.
Angèle Châtelier pour Europe 1. À l'étranger, la nuit dernière a été marquée par de nouveaux bombardements israéliens sur la bande de Gaza, des dizaines de frappes après un dimanche particulièrement meurtrier. 42 Palestiniens ont été tués hier, dont au moins 8 enfants. Une troisième réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU a de nouveau débouché sur un échec. Du football, pour finir, et le suspense qui reste entier au sommet du classement de Ligue 1, la lutte est féroce entre Lille, tenue en échec à domicile contre Saint-Etienne 0-0, et le PSG, large vainqueur 4-0 contre Reims. Les Parisiens qui mettent la pression sur les Lillois, Julien Froment.
Effectivement, le Paris Saint-Germain n'a toujours pas son destin entre ses mains, mais au moins, il se donne les moyens d'y croire jusqu'au bout. À sa victoire 4-0 contre Reims, c'est un message fort envoyé aux Lillois. En plein doute, hein, après leur match nul contre Saint-Etienne 0-0, Paris, lui, ne lâchera rien, même si l'entraîneur Mauricio Pochettino ne veut pas entendre parler d'ascendant psychologique.
La réalité, c'est que Lille a un avantage d'un point. L'avantage psychologique, je n'y crois pas. En tout cas, il ne se répercute pas au classement. Lille peut l'emporter à Angers, mais nous sommes aussi convaincus que nous pouvons faire un bon match à Brest et leur mettre la pression.
Le PSG lancé dans une semaine de tous les dangers, mais aussi de tous les espoirs, avec d'abord mercredi la finale de la Coupe de France contre Monaco, puis dimanche prochain la 38e et dernière journée de Ligue 1. Une semaine qui déterminera, selon les résultats, le degré de réussite ou d'échec de la saison parisienne.
Et on connaît les deux clubs relégués en Ligue 2. Nîmes, battu 5-2 contre Lyon, accompagnera Dijon à l'étage inférieur. Rien n'est encore joué pour la place de barragiste détenue pour le moment par Nantes.
Merci beaucoup Émilie Dez. Il est 8h33 sur Europe 1 et Laurent Cabrol est avec nous. Un nouveau point sur la météo.
Le temps ne change pas malheureusement. Nous allons vivre une journée encore très agitée, encore ponctuée d'averses, d'orages et de giboulées. Faut dire que comme hier aussi, c'est cet après-midi que le temps sera réellement mouvementé. Pour l'instant, il est encore relativement calme, mais avec beaucoup d'averses. Je ne vous le cache pas, et vous le savez, chers amis, vous qui êtes dessous déjà. En Bretagne, Val-de-Loire, région parisienne, Champagne-Ardenne, Lorraine-Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes, sur l'ensemble du Massif central, le Poitou et la région du Nord, c'est là que le temps sera le plus désagréable aujourd'hui avec des giboulées. Et je le disais aussi, non, je n'en ai pas dit, je n'ai pas parlé des orages, j'en ai parlé tout à l'heure, mais les orages seront là cet après-midi dans ces contrées. Sur le littoral atlantique, région nantaise, Vendée, Charente, Aquitaine, Midi-Pyrénées, pas trop mal quand même. Allez, un petit brin de soleil supplémentaire par rapport aux autres régions. On est content. Sur le littoral méditerranéen, youpi, le temps sera dégagé, mais avec du vent. 80 km/h. Et j'ai oublié de dire que sur l'ensemble du territoire, nous serons à 50-60 km/h. Donc non seulement des averses, non seulement des orages, mais en plus du vent. Il ne manque rien pour nous casser les pieds. 15 degrés annoncés aujourd'hui, 16 à Colmar, 17 à Paris, à Périgueux, Limoges et La Rochelle, 18 à Toulouse, 19 à Lyon et 22 à Marseille. Et puis je vous le disais tout à l'heure, malgré mes jumelles hors pair, je ne vois rien arriver à l'horizon, c'est-à-dire un anticyclone. Et malheureusement, je ne vais pas vous dire l'échéance, mais elle semble lointaine encore du changement de temps.
Vous avez une paire de jumelles hors pair. Merci beaucoup Laurent Cabrol, il est 8h35 sur Europe 1. Dans un instant, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed.
Je vous rassure, je n'ai aucun conflit d'intérêt avec les restaurateurs, mais vous allez voir que la réouverture des terrasses serait tout simplement bénéfique pour notre santé.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h36 sur Europe 1.
Notre santé est présentée par Atoll et l'innovation Lexilence, les premières lunettes qui peuvent faciliter la lecture pour les personnes dyslexiques.
Et c'est le médecin d'Europe 1 qui est avec nous, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
J-2, ça y est, on y croit, avant la réouverture des terrasses. Et au-delà du plaisir de manger un bon plat, vous nous dites ce matin que partager un repas serait bon pour notre santé.
Et oui, c'est vrai que nous sommes tous impatients de la réouverture des restaurants, car on a le sentiment de retrouver une certaine liberté, mais cela pourrait aussi avoir un impact direct sur votre santé, on le sait. La période a été assez difficile et angoissante pour tous, car la crise du Covid a notamment aggravé l'isolement social. En particulier chez les plus jeunes. Plus aucune distraction, des cours ou un travail à distance, peu de perspectives et donc forcément un stress qui a augmenté. Or, vous ne le savez peut-être pas, mais la solitude et l'isolement social sont très néfastes pour votre cœur et donc votre santé cardiovasculaire. De récentes études ont montré que les personnes seules ou privées de relations sociales sont deux fois plus susceptibles que les autres de développer des pathologies graves comme de l'hypertension, de l'insuffisance cardiaque ou même un infarctus.
Et c'est la journée de l'hypertension, en plus on en a parlé aujourd'hui. Donc finalement, je vous suis bien, rompre l'isolement autour d'un repas entre amis serait bénéfique pour notre cœur.
Eh oui, mais pas que. De nombreuses études ont montré que les personnes les plus engagées socialement sont globalement en meilleure santé et ont moins de risques de souffrir de dépression ou même d'avoir une baisse de leur capacité intellectuelle. Ces données, eh bien, sont en accord avec la plus longue étude menée par l'université d'Harvard sur les facteurs qui déterminent un vieillissement en bonne santé. La principale conclusion de cette étude, qui a débuté en 1939, est extrêmement simple. Le bonheur et la bonne santé sont déterminés par des relations de qualité avec votre ami, vos familles ou vos amis. On comprend donc qu'au-delà de la réouverture des terrasses, ce sont nos amis, nos proches que nous allons retrouver autour d'un verre ou d'une assiette. Nous retrouvons en quelque sorte ce lien social qui nous a tant manqué.
Jimmy, simplement, si on retourne au resto, c'est pas pour manger des légumes vapeur. Hein. Il y aura de la crème, il y aura du beurre.
Il y aura du gras.
Vous êtes au courant de tout ça.
Hein. Bon.
Un mot pour redevenir sérieux. Un mot malgré tout du Covid. Qu'en est-il du risque de contamination en terrasse?
Eh bien, il faut reconnaître que la probabilité de contracter le Covid en espace extérieur, donc en terrasse, est extrêmement réduite par rapport à un milieu clos. Dehors, vous avez une énorme quantité d'air qui va en quelque sorte diluer d'éventuelles particules du virus et donc quasiment anéantir le risque de contamination par aérosol. Reste encore un risque de contamination à travers des gouttelettes de salive, autrement dit les postillons. Raison pour laquelle je vous recommande malgré tout de vous faire vacciner pour que nous retrouvions très très vite notre vie d'avant.
Merci beaucoup Jimmy Mohamed et on y croit, J-2, ça y est le compte à rebours, on compte les heures, les minutes maintenant, on vous retrouve à 15h tout à l'heure, notre santé avec Mélanie Gomez.
Oui, à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre l'homophobie, nous recevrons le docteur Saverio Tomasella, il est docteur en psychologie et il viendra nous parler du coming out.
C'est de 15h à 16h et c'est l'émission Santé d'Europe 1, sans rendez-vous, merci Jimmy. Notre planète à 8h40 sur Europe 1 avec Fanny Agostini, bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ah tiens, une idée ce matin, Fanny, comment déménager de façon écologique?
Ben oui, c'est vrai que la période Covid a incité beaucoup de citadins à s'installer plus au vert, mais décider de changer de cadre de vie peut avoir une contrepartie carbone très forte. Exemple, l'éloignement plus grand avec votre lieu de travail, si vous ne pouvez pas télétravailler, peut vous amener à faire des trajets plus longs et donc plus carbonés. Ou encore, toutes les affaires que vous allez jeter en faisant vos cartons, ou bien les travaux que vous allez réaliser dans votre nouveau logement. Tout cela a un coût environnemental, voilà pourquoi ce matin je vous parle d'un kit qui vous aide à déménager de façon écolo. Approuvé et validé par l'ADEME, l'Agence de la Transition écologique, ce kit que vous pouvez trouver sur le site Info Durable fournit d'abord quelques pistes pour calculer l'empreinte carbone de nos déplacements vers le travail ou les loisirs à partir de notre nouveau logement. On y trouve aussi, ça c'est marrant, des astuces pour faire du co-déménagement, c'est-à-dire grouper le transfert de vos affaires avec d'autres déménageurs.
Alors ce kit aide aussi les particuliers à contribuer à la baisse des émissions du secteur du BTP.
Absolument, grâce à un guide d'estimation des rénovations, isolation thermique, chauffage et autoproduction énergétique qui sont autant de facteurs à anticiper quand on envisage de déménager. Car le bâtiment et les travaux publics consomment, rappelons-le, 45% de l'énergie produite en France et émettent 27% des gaz à effet de serre du pays. Pour preuve, un mètre carré de construction dégage 1,5 tonne de CO2 sur 50 ans. Et ce n'est pas prêt de se calmer. S'il a ralenti en 2020, le rythme de construction en France est le plus élevé d'Europe avec environ 400 000 nouveaux logements par an.
D'ailleurs, la rénovation du bâtiment, c'est un enjeu pivot du plan de relance européen.
Oui, c'est vrai, la Commission européenne veut doubler le rythme de rénovation au sein de l'UE. La France est particulièrement mauvaise élève puisqu'elle ne rénove que 0,2 de ses bâtiments par an. L'UE appelle donc les gouvernements à subventionner massivement ces rénovations et à relever les exigences de performance énergétique pour les propriétaires. Un enjeu qui, mine de rien, est aussi important que la transition énergétique vers le renouvelable en elle-même. Performance énergétique et bannissement des énergies fossiles sont en fait les deux faces d'une même pièce.
Merci Fanny Agostini, notre planète, c'est tous les matins et c'est sur Europe 1 bien sûr. Dans quelques toutes petites secondes, Nicolas Canteloup avec Julie qui s'installe.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour le titre principal de l'actu. Il y a même plusieurs titres, allons-y.
Oui, il y en a plusieurs, bien sûr, Julie, parce que ce sont des actus radio généralistes, donc beaucoup d'actu. Bienvenue, allez, bienvenue sur Europe 1. À Europe 1, car je suis envoyé spécial à Europe 1 ce matin. Envoyé spécial à mon propre bureau. Ça fait tout drôle.
Ah, ça fait drôle, hein.
Ah oui, après le garage, ça fait drôle. Alors, super nouvelle du Made in France ce matin. Le président de Sanofi France était l'invité, vous l'avez entendu, de Sonia Mabrouk à 8h15. Bon, à la base, il était invité à 5h, mais chez Sanofi, ils ont toujours un peu de retard, donc il est arrivé à 8h15. Sanofi qui va passer, et ils nous l'ont annoncé, à la phase 3, puis à la fabrication de son propre vaccin. Chacun son rythme. Lancer un vaccin alors que tout le monde sera vacciné, niveau marketing, c'est comme ouvrir une boîte de nuit en 2020. Hein, c'est pas le super timing. Mais bravo quand même, ça Sanofi, parce qu'il s'accroche. Allez, l'autre info, encore une victoire française. Les tests PCR, on l'a appris, seront gratuits pour tous les touristes, pardonnez-moi, qui viendront en France cet été pour les encourager à venir.
Ouais,
c'est pas super génial comme cadeau d'accueil quand même. Hein, si on compare à Tahiti, ils accueillent les touristes en leur accrochant des colliers de fleurs autour du cou. Nous, on va leur enfoncer des crottantiges dans le nez. Ouais, bon, c'est pas. Hein. Allez, et puis international. Allez, on va rester positif. On revient sur le bombardement de l'immeuble de presse qui abritait notamment la chaîne Al Jazeera. Oui, c'est un peu comme si. Alors, pour vous donner un exemple, chers auditeurs, c'est un petit peu comme si en France on bombardait l'immeuble de CNews. Ça aurait d'énormes conséquences. La France repasserait à gauche. Voilà. À vous, Julie.
Bon, on va arrêter là, oui. Merci, Mathieu.
C'est mon opinion. Voilà, ouais, je la livre.
Ça, voilà. Jean Castex est avec nous ce matin. Bonjour, monsieur le Premier ministre.
Hé, bonjour.
Alors, on a passé le cap des 20 millions de vaccinés. Du coup, vous avez tweeté fièrement « Engagement tenu ».
Ah, vive, pour une fois, j'ai envie de dire cocorico.
Eh oui.
Cocorico, hein. Alors, c'est pas extraordinaire. Hein. On arrête là maintenant le French bashing. Hein. À Sanofi, on est des winners. Hein. À la bourre, mais des winners quand même. Hein. Au gouvernement, on est également des winners. On a vacciné, vous l'avez dit, 20 millions de Français. Ce n'est pas rien, Madame Leclerc. On a vacciné. On a vacciné. Les vieux, les gros, les moches, les mous du bulbe, les gras du bide, les beaux, les petits, les grands, les moyens. Vous vous reconnaissez autour de ce studio, on a vacciné. On est en train même de vacciner les jeunes. Et on vaccine même, et ça c'est une performance totalement française. On est en train de vacciner même les anti-vaccins. On est des oufs.
Oui, attendez, vous avez vacciné 20 millions de Français, mais je vous rappelle qu'on est 62 millions et demi quand même, hein.
Ah, c'est fou ça quand même, c'est très français de toujours voir le verre à moitié vide.
Ah bah
20
attendez,
millions
bah,
sur 62 millions et demi.
C'est pas à moitié là, c'est au tiers vide. Hein. La moitié ce serait 30 millions de vaccinés.
Mais elle répond en plus, elle est frontée et elle est en train de militer.
Julie l'est frontée.
Accessoirement, 25% des plus de 75 ans n'ont pas été vaccinés.
Oui, alors ça, je dois vous avouer que vous avez mis le doigt là où ça coince. C'est le problème de la perte de mémoire chez nos anciens, chez nos papys et nos mamies. C'est vrai qu'on a un paquet de seniors qui, à 12h30, ne se rappellent déjà plus de ce qu'ils ont mangé à midi.
Oh là là.
Alors, allez vous rappeler si vous avez été vacciné ou pas il y a 3 semaines. Vous savez, quand on a certains papis en EHPAD qui ont été vaccinés 14, 15, 16 fois, j'ai les rapports sous les yeux. Ils y revenaient tous les jours.
Oh là là là.
Ah ben, ils sont distraits, nos anciens. Hein. Vous verrez dans 40 ans, Madame Julie. La bonne nouvelle, c'est qu'ils vont sûrement revoter pour Macron en 2022, vu qu'ils n'auront aucun souvenir de son bilan.
Ah ben voilà.
C'est Merci. Très positif.
Bonne analyse. Merci Jean Castex. À bientôt. La baisse de la natalité en France devient inquiétante et menace notre modèle social. C'est bien ça, selon vous, Monsieur Bayrou?
Évidemment. Pourquoi croyez-vous que je me suis battu la semaine dernière pour la réouverture des boîtes de nuit? Parce que je suis fan de David Guetta, de Bob Sinclair et de Booba, croyez-vous? Eh bien non, Madame Julie.
Bah, quel rapport alors?
Mais parce que, et c'est mon analyse, depuis que les boîtes de nuit sont enfermées, la natalité, c'est une des conséquences abaissées. Savez-vous, oui, vous me regardez avec des grands yeux, mais savez-vous combien d'enfants Monsieur Béliard, Madame Leclerc, Monsieur Cabrol et les autres, oui, que je connais. Savez-vous combien d'enfants sont conçus sur le siège arrière d'une Twingo sur le parking du Macumba Club? Combien de Dylan et de Priscilla franchissent le pas parce qu'ils ont un petit coup dans le nez?
Ah, eh bien, Dylan et Priscilla.
Bonjour, c'est...
Non.
Si, c'est Dominique Romantique. Excusez-moi de passer une tête. Vous savez, j'ai deux passions, l'économie de gauche et la fécondité. Alors, si je peux allier mes deux passions pour sauver notre modèle social, je suis là, dispo, ready, prêt au combat.
C'est très gentil, mais vous n'allez pas répondre à la baisse de la natalité à vous tout seul, monsieur Strauss-Kahn. Alors, reprenez, monsieur Bayrou, c'est si important que ça, que la natalité reparte ?
Mais allons, bien sûr. Tout notre système des retraites est basé sur cela. Que les jeunes payent pour les vieux, c'est oui, ça la réalité. Les jeunes doivent payer pour les vieux. Mais s'il n'y a plus de jeunes, comment que l'on fait? Tout le système s'écroule. Alors je le dis aux Français, mais on peut mettre du Barry White. Ce soir, Françaises et Français, on fait tous l'amour. On enlève nos vêtements et les chaussettes aussi. Et on laisse parler nos sens. Comme une sorte de fête de la musique, mais qui serait une fête de la procréation. Pardonnez-moi d'être trivial, la fête du slip finalement, soyons clairs. Allez, vas-y, si tu m'écoutes, auditeur, ondule ton corps derrière ton transistor, comme disent les jeunes. Érotisme, c'est érotisme. Le mot-clé.
Bah, écoutez, on sait enfin quel dossier on vous a confié, hein, monsieur Bayrou. Allez, à bientôt. L'étau judiciaire se resserre autour de Marine Le Pen. Après 5 ans d'enquête, la police financière dénonce une fraude organisée par vous, madame Le Pen, pour détourner les crédits du Parlement européen. Bonjour.
Bonjour à votre joyeuse Mala. Et bonjour madame Leclerc, monsieur Cabrol. Bonjour au docteur Elton John Zidane. Oui, on arrive au bout là. Ça marche.
Jimmy et Mohamed bonjour. Se décline à l'infini comme ça.
Et bonjour à toi, jolie métisse. Ah, je l'aimais bien, celui-ci, en garage, avec sa bretelle de salopette négligemment tombante sur son épaule et son gros pneu, donc sur le poster que nous avions quand nous étions adolescentes. Mais je m'égare.
Vous disiez,
madame Leclerc, une enquête pour fraude. Oulala, j'ai peur, tout va s'effondrer. Oh là là, le Rassemblement national est en danger. Je ne serai pas au second tour. Oh là là.
Vous pensez vraiment?
Ben non. Allons, ouvrez les yeux. Mes électeurs s'en foutent totalement. Pardonnez-moi d'être un petit peu familière, mais ça fait 40 ans qu'on dit du mal de l'Europe au Rassemblement national, au Front national. Alors que je vole l'argent du Parlement européen, ça rend plutôt mes électeurs contents, voyez-vous.
C'est ça.
Ouais. Mais écoutez, c'est comme un jeune de banlieue qui brûle la voiture d'un flic. C'est interdit, mais dans sa cité, c'est un héros. Voilà. Donc oui, j'avoue tout. J'ai piqué plein de pognon à l'Union européenne, les frérots. Fac le système. Bon, voilà.
On dit que si vous utilisiez l'argent de l'Europe pour financer votre parti, c'est parce que vous êtes très endetté. On a même appris que vous n'avez jamais remboursé votre emprunt aux Russes. C'est vrai ?
Mais évidemment, lisez le dossier. Les banques françaises ne jouent pas le jeu. Voilà la réalité.
Bien sûr, oui.
Si, mais écoutez, arrêtez de m'interrompre. Les banques françaises me prêtaient de l'argent, madame Leclerc. Avec l'argent, je pourrais rembourser les banques russes. Et là, les Russes rassurés que je rembourse, me prêteraient de l'argent pour que je rembourse les banques françaises. Et ainsi de suite, voilà.
Ouais,
ça s'appelle, cavalerie, je ne sais pas, il y a un spécialiste de cheval chez vous, peut-être. Non. Je ne sais pas. Bon,
toujours est-il que le Parlement européen vous réclame immédiatement les 7 millions que vous auriez détournés.
Oh, mais ça va. Vous êtes insistante. Quoi? Mais écoutez, je vais les rembourser. Voilà, c'est ce que vous voulez. Ben, laissez-moi appeler ma banque, c'est tout.
Ben, allez-y,
voilà.
Appelez votre banque.
Je vais appeler ma banque, alors voilà.
Allez, Jean-Marie Le Pen.
Oui, bonjour, mon papounet adoré. Mon papounet, joyeux Noël, mon papa que j'aime.
Joyeux Noël, Noël, c'est en décembre, saleté.
Oui, je sais, mon papounet, mais comme j'ai raté les 15 derniers Noëls, je me disais, pour rattraper le temps avec mon papounet, faut penser aux gens que j'aime.
La dernière fois que tu m'as appelé, c'était pour financer ta campagne de 2017. Oui. Hein, t'es encore dans le rouge, c'est ça? Hein, t'as besoin de combien?
Pas grand-chose, mon papounet. Disons, aller à la louche, 7 millions d'euros pour mon papounet que j'aime d'amour.
Tant que ça pour ta campagne.
Non, ça c'est pour rembourser l'argent que j'ai volé. Non, pour la campagne, je te passerai un petit coup de fil à la fête des pères, disons.
Eh ben dis donc, mais quelle famille. Bravo.
Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse qu'à retrouver sur Europe1.fr. Il est 8h56 et Philippe Vandel s'installe. Culture Média va démarrer, oui. 9h-11h sur Europe 1. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu. Vous savez qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de la lutte contre l'homophobie et la transphobie et notre infomédia du jour va s'intéresser à Têtu, magazine d'actu LGBT. Plus condamné pour mort il y a 3 ans. Il est remonté, il a repris des couleurs grâce à Almain Servian, entrepreneur plein d'imagination, qui s'apprête à relancer un célèbre mensuel, lequel il nous dira. Au sommaire également, un anniversaire, ce sont les 20 ans de la télé-réalité. Et Martin Veil, le journaliste de TMC, propose un doc télé-réalité, la nouvelle influence. Vous allez voir que tout a changé maintenant. Il gagne des fortunes, mais quand je dis des fortunes, c'est 45 000 euros par jour. Des candidats à la télé-réalité, oui, s'il n'en revient pas, Théo Manval. Rien qu'en postant des petits posts en une seule journée. Et puis enfin, notre invitée, c'est la comédienne Julie Debona. L'année dernière, elle était chez nous en stage d'observation pour préparer au mieux son rôle de présentatrice radio. Et bien aujourd'hui, le résultat est visible dans la nouvelle série de TF1. Ça s'appelle Plan B et nous, c'est notre plan A.
Culture Média de 9h à 11h avec Philippe Vandel et toute son équipe. Moi, je vais vous retrouver demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.